En 1956, lorsqu'IBM présente son premier disque dur, il peut stocker 5 mégaoctets de données, soit l'équivalent aujourd'hui d'un fichier MP3. Et aujourd'hui justement, Twitter produit chaque jour 7 téraoctets de données, soit 1,5 million de fois plus. Inévitablement se pose la question du stockage de cette information. Comment faire pour en conserver autant, mais aussi de sa pérennité? Les meilleurs disques durs ont une espérance de vie de quelques dizaines d'années au mieux, d'où l'idée de conserver toute cette information dans ce que la nature a créé de plus efficace et de plus compact au fil de milliards d'années d'évolution, dans de l'ADN. ADN, un brin de mémoire, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour plonger dans cette mémoire à quatre bases, nous avons le plaisir de recevoir ici, en studio, à la Maison de la Radio à Paris, Jean-Paul Delahaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien, informaticien, professeur émérite à l'Université de Lille et chercheur CNRS au Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique à Lille. Et nous devrions retrouver d'ici quelques minutes, on l'espère, Christophe Décimo, en direct depuis Lausanne et les studios de nos confrères de la radio-télévision suisse. On espère qu'il va nous arriver dans quelques secondes. Comme chaque jour, vous pouvez suivre l'émission, compléter ce que vous entendez par le fil Twitter de la méthode scientifique @laméthodefc. Alors, pour commencer donc, Jean-Paul Delahaye, je voulais vous soumettre cette citation du directeur scientifique de Semiconductor Research Corporation qui disait la chose suivante. Vers 3000 avant notre ère, l'humanité produisait l'équivalent de 1000 bits d'information par habitant. En l'an 1000, le savoir représentait de l'ordre de 100 000 bits d'information par personne. Et aujourd'hui, nous en sommes à environ 10 000 milliards de bits par humain. Sommes-nous donc véritablement aujourd'hui à l'aube d'un problème structurel lourd de conservation de données?
Oui, mais peut-être que le problème n'est pas si grave que ça, puisque progressivement, les capacités d'enregistrement suivent. Et en fait, si aujourd'hui, il y a tant de données associées à une seule personne, comme c'est indiqué là dans la citation que vous avez donnée, c'est aussi tout simplement parce qu'on le peut. Si on avait pu faire ça il y a 20 ans, on aurait fait ça il y a 20 ans.
Ou à 300 avant Jésus-Christ.
Voilà, exactement. Donc en fait, c'est plutôt la cause de cette multiplication d'informations enregistrées associées à chaque personne ou à chaque structure, etc., est plutôt le résultat de la possibilité qui a été créée par les progrès de l'informatique et du stockage informatique.
Il y a tout de même un problème relativement nouveau dans l'histoire de l'informatique, c'est le problème de la dématérialisation de la conservation, l'apparition du cloud. Maintenant, la conservation des données personnelles est en ligne, donc l'enjeu n'est plus de la conservation chez soi de données individuelles, mais l'enjeu de stockage massif de données par des grandes compagnies.
Oui, c'est vrai, mais là encore, c'est simplement parce que c'est devenu possible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, chez soi, on peut stocker beaucoup de données. Sur un disque dur d'un téra, on stocke beaucoup plus de films qu'on en enregistrait avant sur les cassettes VHS. En fait, c'est partout. Aussi bien chez soi que dans les grandes structures, que sur le cloud, qu'il y a des données qui augmentent en quantité et qui bien souvent sont quand même très redondantes. La même information va être reproduite un très grand nombre de fois.
Mais malgré effectivement l'augmentation des capacités techniques, je m'adresse à l'enseignant en mathématiques, à l'informaticien que vous êtes, il y a quand même une tendance exponentielle à l'augmentation des données produites par chacun individu qui soumet les grands groupes et notamment les grands groupes internet et informatique à des défis techniques pour pouvoir tout stocker et tout conserver.
Oui, cette augmentation exponentielle, elle est attestée et elle porte un nom, ça s'appelle la loi de Moore. Alors la loi de Moore, a priori, elle a été énoncée en 1965 par Gordon Moore et elle concernait uniquement la densité de transistors qu'on peut mettre sur un centimètre carré. Mais en fait, quand on suit l'histoire de l'informatique depuis donc 50 ans, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette loi de Moore, elle porte finalement tous les éléments qui interviennent en informatique, aussi bien la vitesse de calcul que la densité de transistors que la capacité d'enregistrement sur des disques durs. Et en fait, cette loi, elle indique qu'il y a à peu près un doublement tous les deux ans, alors avec des variations selon les domaines, et un doublement tous les deux ans, ça c'est effectivement une loi exponentielle.
C'est les mathématiques de base, voilà. C'est une loi exponentielle. Même si effectivement, on en avait parlé d'ailleurs ici, on voit que cette loi de Moore, que ça a tendance un peu à plafonner.
Oui, elle fatigue un petit peu.
Elle fatigue un peu et que c'est cette loi de Moore qui était censée nous conduire au point de singularité.
Oui, ça c'est autre chose.
Ça c'est encore un autre débat que nous avons eu et que nous aurons à nouveau dans d'autres émissions. J'aime bien l'idée qu'on parle de cette quantité exponentielle d'informations produites par chaque individu. Il y a un néologisme qui s'appelle l'extelligence.
Oui, ben je connaissais pas ce néologisme, je suis désolé.
Bon, on espère qu'on va récupérer Christophe Décimo dans peu de temps, parce que Christophe Décimo aurait pu nous dire quelques mots à ce propos. Alors aujourd'hui, quelles sont les solutions industrielles classiques de conservation de cette information? Pour le moment, c'est principalement le silicium qui est le composant principal de nos ordinateurs et des circuits.
Oui, alors les solutions, quand on veut un stockage, je dirais, semi-massif, on va utiliser effectivement des mémoires flash, comme il y en a dans les téléphones, les clés USB, et puis les disques SSD des ordinateurs. Quand on veut stocker un peu plus et à moindre coût, on va utiliser des disques durs, mais qui vont passer de mode assez rapidement. Et quand on veut stocker encore plus, on utilise des bandes magnétiques. Les bandes magnétiques, c'est quand même le moyen de stockage massif qui aujourd'hui est retenu, mais qui a un gros défaut, c'est que pour accéder à l'information, il faut faire défiler la bande, et donc le temps d'accès est bien bien plus long que le temps d'accès sur une mémoire SSD ou même un disque dur. Donc il y a divers niveaux, mais chacun de ces niveaux aujourd'hui a atteint une capacité qui est très grande. Aujourd'hui, quand on calcule, on cherche à évaluer, parce qu'on ne peut pas le calculer de manière précise, la quantité totale d'informations numériques qu'il y a sur Terre, je parle d'informations numériques, on arrive au chiffre de 10 puissance 22. Voilà, à peu près 10 puissance 22. Octets, oui, c'est caractère ou octet, si vous voulez. Ce qui est tout à fait colossal. Mais bon, la loi de Moore va nous dire que ça va doubler à peu près tous les 2 ans, et c'est ce qui s'est passé depuis 40 ans. Quelque chose qui est extraordinaire avec la loi de Moore, c'est qu'elle a été énoncée en pensant qu'elle serait valable une dizaine d'années, pendant 40 ans, elle s'est révélée vraie, avec une assez bonne précision, ce qui est aussi quelque chose d'assez étonnant. Même si maintenant elle faiblit, elle reste encore vraie. Ça sera peut-être pas tous les 2 ans, ça sera peut-être tous les 3 ans qu'il va y avoir ce doublement de capacité. Mais on peut être tranquille pendant un bon moment. On va pouvoir stocker tout ce qu'on veut pendant encore très longtemps.
Mais ces bandes magnétiques ont tout de même un inconvénient majeur, c'est qu'elles ne sont pas éternelles. Elles ont une durée de vie, et cette durée de vie qui, à l'échelle de l'informatique, est relativement longue, mais à l'échelle de l'humanité et du futur, dans l'hypothèse d'une conservation plus longue, d'un archivage plus long, ça va buter dans quelques années.
Oui, alors ça c'est un problème que on rencontre depuis longtemps. Et quand on n'a pas pris de précautions, on a perdu des données. Il y a énormément de données qui ont été perdues à la fin des années 70, dans les années 80, parce que justement on n'a pas pris de précautions concernant les bandes magnétiques. Les bandes magnétiques se dégradent. Mmh. Et alors la solution, si on ne dispose que de cette méthode-là, c'est de recopier les bandes régulièrement. Et si on ne le fait pas, à un moment donné, l'information est perdue. Il est quand même intéressant de comparer les divers systèmes de stockage, en ce sens, parce qu'il y a deux paramètres qui vont un peu en sens inverse. Donc les mémoires flash, le temps d'accès, c'est ça se compte en millisecondes. Le disque dur, c'est des dizaines de millisecondes. Les bandes magnétiques, alors là, ça, selon la façon dont l'information qu'on cherche est stockée, ça va être des minutes, voire des dizaines de minutes. Mmh. Et puis, puisqu'on va parler de l'ADN, quand on va stocker de l'information sur l'ADN, là, ça sera des heures, voire des jours pour accéder. Donc ça, c'est le premier facteur qui n'est pas favorable à l'ADN. Par contre, si on regarde la fiabilité et la durée du stockage, dans le cas des mémoires flash ou des disques durs, on évalue ça en gros à 5 ans. Dans le cas des bandes, c'est un petit peu mieux si les bandes sont bien gérées, etc. On dit 10 ans, 30 ans, enfin 10 ans, 20 ans, 30 ans.
Une petite dizaine d'années.
Non, un peu plus sur les bonnes bandes. Aussi, il y a diverses qualités de bandes magnétiques. Et par contre, pour l'ADN, on peut imaginer des millénaires. C'est ce qui s'est passé pour l'ADN des animaux aujourd'hui, qu'on retrouve donc des millénaires après leur mort.
C'est-à-dire que la capacité, le temps d'accès est inversement proportionnel au temps de conservation.
Voilà, ils sont liés inversement l'un à l'autre.
Pourquoi est-ce que, comment l'ADN a-t-il surgi comme l'idée d'un moyen de conservation de l'information?
Moi je pense que c'est tout à fait naturel. On sait que dans chaque cellule d'un être vivant, il y a de l'information, c'est depuis maintenant plus de 50 ans. Dans un premier temps, on ne pouvait pas l'utiliser pour écrire ce qu'on voulait, mais les progrès à la fois du séquençage et de la synthèse ont à un moment donné fait apparaître l'idée que on pourrait écrire. Alors, comme c'est quand même très coûteux, il y a le problème du coût que j'ai pas abordé. Comme c'est très coûteux, dans un premier temps, c'était pas raisonnable de stocker quoi que ce soit sur de l'ADN. Et depuis, on va dire 5 ans, on commence à pouvoir envisager sérieusement de stocker quelque chose.
Il y a une raison, finalement, qui est une raison de bon sens. On reparlera un peu de l'histoire tout à l'heure. C'est que, finalement, l'ADN, quand on voit la capacité, la densité d'informations qu'on peut compacter dans un aussi petit espace, hein, je rappelle qu'un brin d'ADN fait 2 mètres et que si on mettait bout à bout tout l'ADN d'un corps humain, on ferait la distance entre la Terre et Pluton. Donc, ça veut dire qu'on arrive à tenir toute cette quantité d'informations-là dans un extrêmement petit espace, qui signifierait qu'on pourrait stocker ça de manière très 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 compacte.
Oui, ça c'est tout à fait exact aussi, c'est un des facteurs que j'ai pas évoqué, mais l'information maximale qu'on peut envisager stocker soit sur des disques optiques, soit sur des disques magnétiques, c'est de l'ordre de 10 puissance 11 informations par millimètre cube. Voilà, c'est ça. Bon, c'est des chiffres qu'on peut discuter, mais c'est de cet ordre-là. Alors que dans le cas de l'ADN, ça sera 10 puissance 18 par millimètre cube. Et donc, il y a quand même un facteur de...
Donc, un million de fois plus.
Plus d'un million de fois plus. Et donc, c'est une grosse différence. Et ça rend effectivement possible, envisageable, l'idée de stocker des quantités bien plus grandes que ce qu'on va pouvoir faire avec les technologies optiques ou magnétiques.
Et j'ai le plaisir de saluer Christophe Décimo, dont nous venons de réussir à rétablir, avec qui nous venons de réussir de rétablir la connexion. Bonjour Christophe Décimo, m'entendez-vous ?
Bonjour, oui, je vous entends très bien.
Parfait. Bonjour, vous êtes donc en duplex avec nous depuis Lausanne, hein, je le disais tout à l'heure, et les studios de nos confrères de la radio-télévision suisse. Vous êtes professeur de bioinformatique à l'Université de Lausanne. Vous avez fait partie de l'équipe de l'Institut européen de bioinformatique qui est à côté de Cambridge en Angleterre, au Royaume-Uni, qui a encodé de l'information dans de l'ADN en 2013. On va en reparler tout à l'heure. On venait de faire un peu, en votre absence, un panorama des divers moyens de stockage de l'information. Il y a une étude toute récente qui date du 14 mars qui montre comment des chercheurs ont réussi à encoder de l'information binaire dans un atome. Est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer à envisager l'atome comme finalement un concurrent à l'ADN pour le stockage de l'information ?
Alors, je suis pas au courant de l'étude du stockage de l'information dans un atome, donc je peux pas vous éclairer.
D'accord. C'était une tentative à l'aveugle, une histoire de changement d'orientation magnétique d'un atome d'omium. Quels sont, selon vous, aujourd'hui, on va retracer un peu l'histoire de ce stockage de l'information dans l'ADN. Quels sont aujourd'hui pour vous les éléments qui plaident massivement pour l'ADN dans le stockage futur des quantités exponentielles d'informations que produisent aujourd'hui nos civilisations?
Alors, l'ADN, je crois que j'ai entendu quelques bouts de l'émission avant. Vous avez commencé à parler de la densité de l'ADN. Donc, effectivement, c'est une molécule qui est dans chacune de nos cellules. Elle est minuscule, puisque nos cellules sont minuscules, et pour autant, elle contient énormément d'informations. Donc, c'est une cellule d'ADN, c'est 6 milliards de caractères, donc ces fameux A, T, C, G, qui sont à la suite. Donc, c'est une très très longue séquence. On peut stocker beaucoup d'informations. Donc, si on veut donner un petit peu une idée, là, enfin, je pensais par exemple à l'œuvre de Proust, là, à la recherche du temps perdu. C'est environ 10 millions de lettres, hein, si on regarde tous les tomes. Et donc, en comparaison, l'ADN, là, avec 6 milliards, donc ça veut dire que c'est 300 fois toute cette information qui est contenue dans chacune des cellules. Si on imprimait ça une édition un peu comme à la Pléiade, ça ferait une tour de 40 mètres, avec 40 étages, donc 120 mètres de haut. Donc on peut s'imaginer, c'est énormément d'informations qui est stockée dans chacune de nos cellules. Et puis on en a beaucoup de ces cellules, on en a environ 10 trillions, donc 10 000 milliards de ces cellules. Et donc si on mettait cette information bout à bout, on pourrait aller jusqu'au Soleil et revenir une centaine de fois. Donc vous imaginez cette densité absolument extraordinaire et des ordres de grandeur au-dessus de ce qui se fait même actuellement au niveau de la mémoire flash.
La donc cette densité. Ouais. Oui, la comparaison que j'avais trouvée tout à l'heure pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que je crois que si on met bout à bout tout l'ADN d'une seule personne, de toutes nos cellules, ça fait de la Terre à Pluton.
Voilà, c'était cette remarque que j'avais. Jean-Paul Delahaye.
Il y a une remarque quand même qu'il faut faire à propos de cette quantité. Dans un être vivant, un humain par exemple, c'est la même information à peu de choses près qui est dans chacune des cellules. Donc il y a une redondance qui est extrême, et cette redondance extrême a pour conséquence que si on voulait coder l'information de toutes les cellules en exploitant cette redondance, on aurait une quantité d'information qui serait bien inférieure. Mmh. C'est le mode de fonctionnement des cellules biologiques qui fait qu'il est nécessaire de recopier quasiment la même information dans chaque cellule, ce qui n'est pas sur un plan informatique très optimal.
Je peux me permettre d'intervenir. Certes, toutes les cellules contiennent la même information, mais il faut savoir qu'une cellule, en fait, quand elle produit des protéines, tous ces programmes cellulaires qui sont enclenchés, c'est souvent sur la base d'un seul gène. Donc, il y a beaucoup de parties de l'ADN qui n'est pas utile, et certes, il y a beaucoup de redondance parce que on a beaucoup de cellules dans le corps humain, mais ça veut pas non plus dire que cette molécule n'est pas stable. Et en fait, on a découvert des morceaux d'ADN qui datent de près d'un million d'années, qui ont été conservés dans des cœurs de glace, et qu'on arrive encore à lire aujourd'hui. Donc il y a une grosse redondance, mais on pourrait être beaucoup plus efficace. Et en fait, si on regarde les travaux récents, ils obtiennent déjà une densité d'information effective qui est bien au-delà de ce qu'on a au niveau de la mémoire flash. Il y a d'autres challenges, et puis ça, on aura l'occasion d'en parler. Mm-hmm. Mais disons qu'au niveau de la redondance, je ne pense pas que ce soit vraiment fondamentalement un problème.
C'est la nature même de la génétique humaine. Un mot tout de même, parce que quand on parle par exemple avec précisément des paléontologues, et on en a eu un certain nombre autour de cette table, les paléontologues nous disent souvent, et les paléogénéticiens nous disent souvent, mais le problème avec l'ADN, c'est que ça se dégrade très vite, donc on a parfois accès à des petits bouts d'informations, mais c'est très fortement dégradé. Or, quand on lit ce que pourrait être ce stockage et cette mémoire ADN, on dit que justement l'un des avantages, c'est que ça peut se conserver très 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 longtemps. Alors où est la vérité, Christophe Desimo?
Alors bon, c'est sûr que les conditions dans lesquelles on conserve cet ADN vont avoir une grosse influence sur sa stabilité. Donc nous, mais les règles sont assez simples. Si on garde cet ADN au sec, au frais, puis à l'abri de la lumière, on sait qu'il est extrêmement stable. Il y a des études qui examinent la chose en fait en regardant la dégradation, mais par rapport en tout cas à tout ce qui est médias courants informatiques actuels. On parlait des bandes magnétiques il y a quelques minutes. C'est la même chose pour la mémoire flash ou les disques durs. C'est des ordres de grandeur complètement différents.
Et un dernier mot aussi rapidement quand même sur un avantage certain du stockage ADN, c'est qu'on est à peu près sûr de la pérennité des instruments de lecture, puisque, ça paraît être une lapalissade, mais tant qu'il y aura des êtres humains ou des créatures vivantes fonctionnant sur l'ADN, et c'est le cas jusqu'à preuve du contraire de toutes les créatures vivantes sur Terre, on aura accès à des instruments de lecture, Christophe Desimo.
Alors oui, tout à fait. Ça, c'est un problème, je pense, auquel tout le monde fait face. Les cassettes VHS peuvent être des fois un petit peu difficiles à obtenir. Des lecteurs, on a ce problème aussi maintenant avec la plupart des ordinateurs qui ont même plus de lecteurs de CD. Et donc, on peut s'imaginer qu'en fait, même de façon très pratique, le commun des mortels a ce problème de pouvoir relire de l'information qui a été peut-être stockée sur une dizaine d'années. Et ça pose un réel problème. Après, on peut se dire qu'en mettant les moyens, on arrive quand même à trouver un lecteur VHS. Mais, disons, si on s'intéresse à des temps un peu plus lointains, mm-hmm. c'est un réel problème.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
16h20 déjà sur France Culture. Nous parlons de la mémoire à ADN, et pas seulement de la mémoire de l'ADN, avec Jean-Paul Delahaye et Christophe Desimo en duplex depuis Lausanne. Et puisqu'on va maintenant, avant de retracer un peu et de rentrer dans le dur des problématiques posées par l'encryptage de l'information par l'ADN, le mieux pour comprendre finalement comment il est possible de transférer de l'information à l'intérieur d'un brin d'ADN, c'est souvent d'aller voir au plus près comment ça se passe. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous vous êtes donc rendu dans une start-up en biotechnologie qui teste précisément une nouvelle façon de coder de l'ADN.
Oui, j'ai rencontré Thomas Hibert et Sylvain Gariel qui, avec Xavier Gaudron, ont fondé DNA Script. Le projet de cette entreprise de biotechnologie est tout simplement de provoquer une révolution semblable à celle du séquençage ADN, mais cette fois dans le domaine de la synthèse de l'ADN, en vue d'offrir aux biotechnologies et à la bioinformatique un support nouveau. Concrètement, on sait aujourd'hui séquencer, donc décoder relativement facilement l'ADN. En revanche, l'encodage, donc la synthèse de l'ADN, se fait exclusivement de façon chimique, via un processus qui est long et coûteux et qui est très limité sur le plan industriel. Thomas Hibert et Sylvain Gariel ont donc eu l'idée d'appliquer à la synthèse de l'ADN un processus enzymatique semblable à celui qui intervient naturellement dans les cellules. Cette méthode permettrait à terme de rendre la synthèse rapide, fiable et moins coûteuse, et donc de pouvoir offrir à grande échelle un ADN de synthèse utilisable dans des domaines aussi variés que la médecine, l'industrie ou encore, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, les données informatiques.
Jusqu'à présent, l'ADN a toujours été fabriqué, enfin l'ADN synthétique a toujours été fabriqué par l'homme de la même façon, en faisant réagir entre eux des réactifs chimiques, donc les quatre briques fondamentales de l'ADN qui sont les nucléotides A, T, C, G, qui ont été chimiquement modifiés à partir de sources naturelles et qui sont ensuite assemblés ensemble selon des cycles pour faire grandir la chaîne d'ADN. Donc ça, c'est la méthode utilisée exclusivement aujourd'hui donc par tout le monde pour avoir recours à de l'ADN synthétique. Aujourd'hui, DNA Script développe une technologie complètement alternative à ça, puisqu'on utilise des enzymes qui sont en fait comme des nanorobots naturels qui ont évolué sur des milliards d'années pour être le plus efficace possible à ajouter ces nucléotides entre eux pour faire la séquence. Donc on n'utilise plus de produits chimiques, on utilise à la place des enzymes.
Et alors, en fait, on a un programme qui a commencé en novembre dernier, qui va durer un peu plus d'un an et demi, et qui justement en fait va permettre d'arriver à une preuve de concept, c'est-à-dire de faire des premiers stockages d'informations avec notre technologie qui est complètement nouvelle, afin de démontrer en fait la faisabilité. Donc on fera le premier stockage de données dans en fait les 18 prochains mois.
Donc ici on est dans un laboratoire de biologie moléculaire classique et donc en gros, grosso modo, on développe et on fabrique les catalyseurs et les briques élémentaires qui nous permettent de fabriquer de l'ADN. Ici on fabrique l'ADN et le troisième poste c'est là où on analyse l'ADN. C'est-à-dire une méthode qui est utilisée aujourd'hui en standard dans l'industrie de chimique et biologique pour analyser les fragments d'ADN selon leur pureté, leur taille, et pouvoir ensuite dire qu'ils sont corrects et les envoyer éventuellement aux clients.
Il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif quand on pense à du stockage de données numériques sur de l'ADN, c'est comment on encode les données pour qu'elles elles s'inscrivent sur des brins d'ADN.
La manière la plus basique de stocker de la donnée en ADN, c'est de se dire, on prend une donnée en binaire, hein, la plupart des données sont binaires, 0 et 1, et puis on a quatre bases A, T, C, G, et on fait, par exemple, on dit que 0, ça sera A et C, et puis 1, ça sera T et G, et puis comme ça, on peut avoir la même séquence en ADN. Ça, c'est la façon la plus basique de faire ça. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une bijection entre le binaire et les quatre bases A, T, C, G.
Ça, c'est pour l'encodage. Et pour le décodage, comment on fait pour lire? Là où nous, on est habitué à des supports très matériels, très basiques, une clé USB, un disque, enfin même un CD. L'ADN, comment on le lira?
Alors, la révolution que DNA Script tente d'apporter dans le domaine de la synthèse, elle a déjà eu lieu dans le domaine du séquençage, notamment aux États-Unis avec Illumina, qui est aujourd'hui le leader incontestable du séquençage. Donc le séquençage d'ADN, il y a plusieurs techniques, elles sont toutes basées sur des techniques biochimiques enzymatiques, c'est pour ça que DNA Script veut faire la même chose dans la synthèse. Et aujourd'hui, en fait, c'est en recopiant le fragment d'ADN qu'on va incorporer des nucléotides qui ont des bases fluorescentes, et en fait, chaque nucléotide ayant une base fluorescente différente va avoir un pulse lumineux qui va être différent, et comme ça, on va pouvoir lire la séquence avec des appareils assez sophistiqués en termes d'optique et de microfluidique. Aujourd'hui, il faut environ 24 heures pour pouvoir décoder un génome humain et ça coûte environ $1,000 donc pour pouvoir faire ça. Donc c'est quelque chose qui, si on voulait faire la même chose en synthèse, ça serait complètement impossible. Aujourd'hui, c'est impossible de synthétiser un génome entier parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, des dizaines d'années et des centaines de millions de dollars.
Comment on fait en sorte que c'est des données qu'on ne peut pas modifier finalement une fois qu'elles sont écrites sur l'ADN? On ne peut pas les retoucher, on ne peut pas...
C'est des applications d'archivage. En fait, ça sert à faire vous pouvez imaginer de faire des backups de data center de cette façon-là. Vous pouvez archiver les fiches d'état civil, les données liées à des centrales nucléaires,
Voilà, c'est vraiment un usage très spécifique. L'objet des recherches là-dessus ne consiste pas à pouvoir stocker toutes les vidéos de YouTube sous forme d'ADN, parce que les temps caractéristiques d'accès aux données, de réécriture des données, sont pas compatibles avec l'usage.
Ceci dit, il y a quand même des chercheurs qui travaillent sur des algorithmes d'encodage de données qui peuvent être réinscriptibles ou modifiables. Il existe des outils biotechnologiques, par exemple CRISPR-Cas9, qui permettent de modifier à façon des fragments d'ADN et donc en gros de modifier la donnée à ce moment-là. C'est des choses quand même assez complexes à mettre en place. Est-ce qu'il ne vaudra pas mieux refabriquer tout un nouveau fragment d'ADN, à voir où la technologie nous emmène, mais on peut aussi penser à ça.
Le brin de base, quelle taille il fait pour de la mémoire et quel nucléotide vous choisissez ?
La longueur idéale serait entre 200 et 1000 nucléotides pour pouvoir stocker de la donnée efficacement, avoir tout le système d'adressage et permettre de faire en sorte que les fragments soient bien distincts les uns les autres et n'interagissent pas dans des mauvaises façons entre eux.
Comment la mémoire stockée sur ADN sera protégée, elle, sur quel support ?
Alors, il y a plusieurs méthodes. Au Genopol à Ivry, il y a une société qui encapsule de l'ADN et le dessique, c'est-à-dire le transforme en une poudre, et l'encapsule dans des petites capsules de métal pour pouvoir le stocker à des températures, je pense, proches de 18 degrés dans des salles assez standards. Donc ça, c'est une méthode physique. On peut aussi, je crois, l'intégrer dans du verre. Enfin, il y a plein de méthodes physiques au-delà de juste le produire et le mettre dans un tube à essai qui permettent de prolonger la durée de vie de l'ADN. Si l'ADN n'est pas mis en contact de milieu aqueux, ce qui va être le plus dangereux pour l'ADN, ce sont les rayonnements ionisants, c'est-à-dire les UV et autres, qui vont en fait détruire petit à petit la structure de l'ADN. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment trop de risques si, encore une fois, l'ADN est dans un milieu inerte. Les deux faces d'une même pièce de l'ADN, c'est la lecture, c'est-à-dire le séquençage, et l'écriture, c'est-à-dire la synthèse. DNScript, nous, on s'intéresse à la synthèse. Pour vous donner une idée, donc on parle beaucoup de la loi de Moore en microélectronique qui a permis une division par deux des coûts tous les ans, enfin bon bref. Pour le séquençage, au moment où Illumina et d'autres sont venus avec des nouvelles technologies, ils sont allés un ordre de grandeur au-dessus de la loi de Moore en termes de rapidité de diminution des coûts. Nous, on espère faire la même chose dans le domaine de la synthèse. L'idée, c'est est-ce que ça sera encore suffisant et est-ce que ça sera assez rapide ? Nous, on est fermement attachés à l'idée que oui, en tout cas, s'il y a une volonté et si ce support de stockage de données est perçu comme ayant vraiment un avenir, il y aura toujours moyen d'y arriver.
Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp sur ces dernières technologies d'encryptage ADN. Vos réactions à l'un à l'autre, Christophe Desimaux, est-ce que vous venez d'entendre ? Ah, oui, Christophe Desimaux ?
Oui, bah, je pense que c'est tout à fait pertinent. Donc on est vraiment dans une situation où, au niveau de la lecture de l'ADN, puisque maintenant c'est vraiment une révolution qui est en marche dans toutes les sciences de la vie, les prix ont énormément baissé. Mais au niveau de la synthèse, il n'y a pas eu les mêmes progrès. En fait, je regardais justement les chiffres, les coûts de synthèse. Je comparais les coûts entre notre étude en 2013 et puis ces travaux récents qui sont sortis ce mois-ci. Et il n'y a pas vraiment eu de baisse de prix, ce qui est surprenant quand on contraste avec les coûts de lecture, de séquençage. Mais personnellement, je pense que c'est vraiment une question de loi du marché, puisque au niveau de la technologie, quand bien même il y a des différences, c'est plus facile de partir d'une molécule déjà existante pour la lire que de la générer. Les synthétiseurs d'ADN, ça fonctionne un peu comme des imprimantes à jet d'encre. Finalement, au lieu d'avoir les cartouches d'encre à remplacer de temps en temps, c'est des cartouches avec des AT, des CG et des G. Et ces molécules vont être déposées dans une matrice, elles vont être grandies. Et donc, en fait, au niveau, disons, technologique, il n'y a aucune raison qui ferait que les prix ne descendent pas. Au niveau de la demande, par contre, effectivement, la plupart des chercheurs ont besoin simplement de synthétiser des petites séquences très courtes, des oligonucléotides d'une dizaine ou une vingtaine de nucléotides de long. Et donc, du coup, les coûts ont énormément baissé, mais ça reste cher par base. On en a besoin de beaucoup pour enregistrer.
Il manque encore le passage, effectivement, à l'échelle industrielle, mais on en reparlera un peu plus tard. Tout à l'heure, je voudrais entendre la réaction de Jean-Paul Delahaye, ce que vous venez d'entendre à ce reportage. Qu'est-ce que ça vous a inspiré?
Oui, c'est très intéressant et très important de comprendre que la synthèse va être beaucoup plus coûteuse, enfin, est beaucoup plus coûteuse et va le rester sans doute très longtemps que la lecture. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose qui est un peu analogue en technologie de l'information. La compression de données, donc ce qui est une forme d'écriture, est toujours beaucoup plus coûteuse que la décompression. Et bon, je pense que les ordres de grandeur sont quand même moins importants entre les temps de compression et de décompression qu'entre le temps de synthèse et le temps de lecture. Mais il y a toujours un petit peu en informatique cette histoire que écrire c'est un peu plus compliqué que lire.
Les premiers travaux remontent au milieu à la fin dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais on va bondir tout de suite à l'époque actuelle puisque les progrès réels matériels, vous l'avez évoqué à l'instant, Christophe Décimo, c'est début des années 2010 et vous-même êtes l'un des pionniers justement dans l'encryptage ADN et dans l'écriture, l'encodage d'informations avec votre collègue Nick Goldman. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots, ou avec le temps qu'il vous faut d'ailleurs, les résultats auxquels vous êtes parvenu?
Ok, donc comme vous l'avez entendu déjà dans le reportage, donc les informations qui sont dans des ordinateurs, donc qui sont enregistrées en format binaire, donc des 0 et des 1, c'est une extrêmement longue séquence. Et puis on peut la convertir en ADN, mais de synthétiser une très longue séquence d'ADN, c'est extrêmement coûteux. Et en fait, il y a des limites technologiques. Au bout d'un moment, on commence à faire des erreurs. C'est pour ça qu'on est obligé d'enregistrer cette information sur des brins beaucoup plus courts. Vous avez entendu parler de entre 200 et 1000, mais en fait, c'est vrai qu'avec la technologie actuelle, c'est plutôt 200. Et même à l'époque, pour nous, c'était un petit peu plus court. C'était environ 150. Alors, ça veut dire en fait que cette information, il va falloir donc on va l'enregistrer sur des petits bouts d'ADN, et donc il va falloir alors pouvoir remettre tous ces petits bouts ensuite à la lecture
dans l'ordre.
Au bon endroit. Mmh. Dans l'ordre, effectivement. Donc, dans le vivant, on est habitué à ce processus où c'est les assemblages de génomes. Alors, on regarde les parties qui se recoupent. C'est un peu comme essayer de résoudre un puzzle. Mais là, effectivement, vu qu'on écrit à l'information, on peut tricher. Puis, on peut noter aussi dans chaque fragment où est, sa localisation. Mmh. Alors, après... effectivement, donc nous, alors si on comprend conceptuellement qu'on peut enregistrer n'importe quoi sur un disque dur, on peut enregistrer n'importe quoi dans l'ADN, mais c'est vrai que c'est pas très parlant. Donc quand on a fait nos travaux, on a décidé pour illustrer, d'enregistrer l'information, enfin par exemple les sonnets de Shakespeare, un extrait du fameux discours de Martin Luther King au format MP3, un PDF de l'article là qui décrit la structure de l'ADN, enfin un petit peu pour illustrer le fait qu'on peut enregistrer n'importe quoi.
Des documents, oui, voilà.
Des documents qui peuvent être d'intérêt, disons, assez général. Et puis là, dans ces nouveaux travaux là, c'est assez marrant parce qu'ils poursuivent un peu sur la lancée là. Eux, ils ont enregistré un film, un article de Claude Shannon, donc qui est un pionnier sur les techniques, sur la théorie de l'information. Et une carte cadeau Amazon, et ils ont même enregistré un virus, enfin, ce que je trouvais assez rigolo. Mais c'est juste pour dire, on peut enregistrer en fait vraiment n'importe quoi.
Il y a quelque chose d'important et sur lequel on va revenir, c'est qu'il y a eu une autre étude qui a été publiée quasiment en même temps que la vôtre, mais vous êtes parvenu à quelque chose à laquelle notre étude n'est pas parvenue, et vous l'évoquiez à l'instant, c'est que vous êtes arrivé à un encodage sans erreur, c'est-à-dire avec 100% d'exactitude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez obtenu ce résultat-là?
Alors, je dois faire une petite correction. En fait, on a certes réussi à recouvrir toute l'information, mais en fait, il s'est avéré qu'il manquait deux deux bouts d'environ 50 nucléotides qui nous manquaient, et en fait, qui se sont avérés être dans une partie répétitive. Et donc, je pense que ça, c'est une bonne illustration un petit peu du challenge d'encoder l'information dans l'ADN. Donc, on a cette partie, c'était en fait dans le PDF, au début du PDF, il y a des métadonnées, donc par exemple le titre, le nom de l'auteur, etc. Et on a une partie peut-être où il n'y avait pas d'informations, et donc ça conduit à une séquence d'ADN qui était assez répétitive, et en fait, il s'est avéré qu'elle était complémentaire à elle-même. Donc bon, le fait qu'elle était répétitive, ça nous a un peu sauvés, puisque du coup, on a pu la reconstituer, disons, manuellement, sans connaître l'original. Mais ça veut aussi dire que donc puisqu'on a à voir avec cette molécule, c'est quand même quelque chose justement qui elle peut avoir il peut y avoir des séquences qui sont ensuite problématiques. Donc une partie du challenge en fait de l'encodage de l'information dans l'ADN, c'est d'essayer de tenir compte en fait des propriétés de cette molécule. Donc une chose par exemple qu'il faut savoir, c'est que la lecture de l'ADN en fait est plus difficile quand il y a la même lettre qui se suit.
Donc si le même nucléotide, voilà ça.
Voilà la même nucléotide. Si vous avez 5 A qui se suivent ou 6, ça va des fois être difficile parce que il peut y avoir peut-être 2 bases qui sont incorporées dans un cycle par erreur. Et donc en fait nous quand on a conçu notre encodage, bon d'une part bien sûr on a essayé d'avoir un peu de redondance. Donc chaque caractère en fait était encodé dans 4 brins différents qui se chevauchaient, mais surtout on a développé un code bon qui est disons au niveau informatique c'est très tout à fait trivial, mais simplement qui nous assurait de jamais avoir 2 lettres identiques qui se suivaient. Et donc ça nous a permis déjà peut-être de limiter le nombre d'erreurs ensuite au niveau de la lecture. Donc, ce qu'on n'a pas fait, donc vous avez vu, donc j'ai parlé du problème de l'ADN qui est complémentaire à elle-même, qui peut se replier et peut-être poser problème ensuite au niveau des manipulations. Il y a un autre problème que nous on n'avait pas vraiment touché, auquel on n'avait pas touché, mais les derniers travaux là, on essaye d'améliorer cet aspect. Et c'est le taux moyen de G et C dans la séquence. Donc, si on a une séquence aléatoire, on peut s'attendre à avoir environ 50% de C et de G. Mais les C et les G, donc la guanine et la cytosine, ont en fait 3 ponts hydrogène entre eux. Donc ils se collent un petit peu plus que les A et les T. Et donc ça veut dire que si on a une proportion élevée de A à G, ou bien une proportion atypiquement basse, ça va aussi poser des problèmes, par exemple, au niveau après de l'amplification de l'ADN, et ça peut causer des problèmes. Donc par exemple, cette dernière étude, en fait, ce qu'elle essaie de faire, c'est d'avoir un système d'encodage où on élimine les séquences qui ont un taux CG, un taux moyen de CG qui est extrême.
Ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est important, hein, cette notion d'encodage sans erreur, Jean-Paul Delahaye, c'est que du coup tous les progrès vont dans le sens de jouer au maximum les répétitions, la multiplication de l'information pour être sûr de pouvoir à tout moment de la retrouver, même s'il y a eu un petit problème d'encodage.
Oui, le principe général en informatique, pour coder une information qui peut être instable à cause de bruit, à cause de toutes choses, c'est effectivement la redondance. Et Shannon en particulier, on parlait à l'instant de lui, a effectivement émis des idées et des théorèmes qui permettent de mesurer cette redondance et de la gérer et de concevoir des codes qui vont volontairement introduire de la redondance et qui vont permettre après de se débarrasser ou de corriger les erreurs qui ont pu se produire. Donc c'est toute la question est la redondance. Concernant le problème des suites répétitives où il y a plusieurs fois le A ou une densité trop grande en CG, en GC plutôt, en informatique c'est très facile à résoudre. La séquence qu'on veut coder, on peut l'associer à une autre séquence pseudo-aléatoire, donc parfaitement déterministe, par exemple faire ce qu'on appelle un XOR entre les deux, après avoir converti en 0 et en 1, et à ce moment-là, toutes ces propriétés qui sont gênantes sur un plan biochimique, donc la répétition de la même lettre, une densité trop forte, vont avoir été éliminées. Donc ces méthodes classiques en informatique, le seul fait de les utiliser vont résoudre ces questions. Ce qui a été fait dans l'étude toute récente, c'est d'essayer d'atteindre le taux d'information de 2 bits par nucléotide, qui est le maximum qu'on puisse atteindre quand on veut utiliser les 4 lettres ACTG pour coder de l'information. Et les chercheurs ont réussi à atteindre par ces méthodes un petit peu complexes de codage, donc les DNA fontaines là,
les fontaines à ADN,
c'est
ouais.
ça, voilà. Mm-hmm. Ils ont réussi à atteindre 1,83, ce qui est tout à fait
élevé.
Remarquable. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même pas le problème principal dans la gestion de l'information par ADN. C'est un petit peu un objectif, un défi qui s'était lancé de s'approcher de ce nombre 2. Si ça avait été 1,5, enfin si c'est 1,5, c'est pas très grave en fait.
Parce que c'est déjà énorme en fait. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça paraît peu, mais en fait c'est énorme en termes de quantité d'informations stockées sur l'ensemble d'un brin.
En l'occurrence, c'est un petit peu un jeu d'avoir voulu atteindre ce 1,83. C'est pas quelque chose qui est essentiel pour aujourd'hui, je pense.
Mais on va reparler dans un instant de ces fontaines ADN.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est déjà 16h41, vous écoutez France Culture, la méthode scientifique, comme vient de le dire Anne de Biran avec sa belle et douce voix. Nous parlons du stockage d'informations dans l'ADN, la solution peut-être future de conservation des données, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit suffisamment pour le moment, mais on n'en est pas encore, et vraisemblablement on ne sera jamais à l'ordinateur et avec de l'ADN qui fonctionne à l'intérieur de votre machine. On parle plutôt de perspectives de stockage sur le long terme, de la quantité d'informations exponentielle qui est produite aujourd'hui par nos sociétés. On en parle avec Jean-Paul Delay, qui est mathématicien, informaticien, professeur émérite à l'Université de Lille, et nous sommes également en duplex depuis Lausanne avec Christophe Décimo, qui est lui professeur de bioinformatique à l'Université de Lausanne. On a parlé de vos travaux de 2013, des travaux Christophe Décimo, qui ont largement effectivement inspiré, ou en tout cas l'étude qui est sortie récemment en 2017, l'année dernière, et va dans la continuité de ces travaux que vous avez fait. Et donc on parlait juste avant la coupure musicale de la fontaine à ADN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste et comment ça améliore les possibilités d'encodage de l'information?
Alors, professeur Delay le mentionnait tout à l'heure, la théorie de l'information et puis les systèmes de codage sont établis depuis longtemps, depuis les années 60, mais une grosse faiblesse en fait de beaucoup de ces systèmes, c'est qu'il faut avoir une bonne connaissance en fait du taux d'erreur auquel on peut s'attendre. Effectivement, si on s'attend à avoir beaucoup d'erreurs, il faut beaucoup de redondance. Mm-hmm. Mais après, s'il s'avère qu'il y a peu d'erreurs, ça fait que l'efficacité est beaucoup diminuée. Donc en fait, assez récemment, il y a eu des percées simplement en informatique avec ces codes fontaines en fait, qui ont été développés dans un cas en fait où il faudrait être un peu plus adaptif, où on n'a pas forcément une connaissance à l'avance en fait du taux d'erreur. Et donc bon, dans les situations standards, si on a si c'est pour la communication, on peut s'adapter, on peut demander dans un canal de feedback en fait de renvoyer l'information manquante. Mais par exemple pour l'ADN, là, ce serait pas possible si il manque des bouts et puis qu'on veut relire ça dans 100 ans.
C'est trop tard.
On va pas pouvoir demander. Mmh. Ouais, ça voilà. Va être trop tard. Mmh. Donc l'idée, la métaphore de la fontaine, là, c'est des systèmes en fait qui envoient donc des gouttes d'information. Et puis plus on en a, plus on arrive à reconstituer le message. Donc je pense, si on pensait de façon très naïve à un système vraiment tout bête, on pourrait s'imaginer qu'on coupe simplement l'information en petits bouts et puis on les envoie un petit peu de façon aléatoire, et puis au bout d'un moment peut-être qu'on arrive à reconstituer le tout. Mais là on sent très bien que ça risque d'être difficile d'avoir vraiment toutes les gouttes si l'information est distribuée de cette façon. C'est un peu comme les gens qui collectent les images Panini, là, ça va être difficile de, d'avoir la dernière image manquante. Donc,
ce qui était déjà le cas des albums Panini, c'est vrai. On avait toujours une image qui manquait pour terminer l'album. C'est la réalité.
Exactement. Donc, l'idée avec ces codes à fontaine, c'est de dire, au lieu d'envoyer toute l'information en fait pour un petit bout de la séquence, on va envoyer un peu d'information sur beaucoup de cette séquence. Donc, en fait, au lieu d'envoyer, c'est un peu des systèmes, des jeux d'équations où on envoie en fait, par exemple, la somme de beaucoup de ces bouts. Et puis, si on en a déjà reçu assez pour déterminer la plupart des éléments, il y a de fortes chance d'obtenir une goutte en plus là, qui va nous donner une contrainte supplémentaire qui nous permet de reconstituer les inventions qui nous manquent. Donc ça a été développé et ça a beaucoup de sujets, par exemple pour tout ce qui est le transfert d'informations, la diffusion d'informations où on ne peut pas facilement avoir un feedback. Et puis là, ils l'ont employé pour stocker l'information dans l'ADN de façon assez élégante. Je veux dire, c'est effectivement comme le relevait mon acolyte là, de pouvoir atteindre aussi, enfin d'être aussi proche du maximum théorique, c'est déjà remarquable. Mais aussi il y a l'élégance d'un système relativement simple au final, et qui permet ensuite d'exclure par exemple les séquences qui sont répétitives, celles qui s'éloignent du GC sans devoir avoir vraiment un code très compliqué.
Il y a un auditeur qui nous pose une question qui me paraît intéressante sur Twitter, qui demande quid finalement du format d'encodage. Est-ce que ce format d'encodage, il va être ouvert, ou est-ce que ça va être un format propriétaire ou des formats propriétaires en fonction des sociétés qui développent ces mécaniques d'encodage, comme on pouvait l'entendre tout à l'heure dans le reportage Christophe Décimo et puis Jean-Paul Delahaye là-dessus.
C'est exactement la même problématique qu'on a avec le reste de l'informatique. Donc vous savez par exemple que les MP3 qui ont eu beaucoup de succès étaient quand même soumis à, enfin il y avait une patente et donc qui a limité l'exploitation de ce format. Il y a certains formats qui sont ouverts. Je sais que suite aux travaux là qui ont été faits, il y a plusieurs patentes qui ont été aussi déposées. Alors ça, c'est le côté peut-être un petit peu, peut-être des fois désagréable, en fait, d'avoir des systèmes qui sont ensuite, peut-être dont l'utilisation est un peu
fermée,
plus
restrictive. Oui, soumise à conditions, ou soumise à financement.
Voilà. Mais d'un autre côté, comme le soulignait M. Delahaye, c'est le taux de l'efficacité est pas vraiment critique. Donc quand on est maintenant, enfin au stade où on en est, on a besoin d'avoir une amélioration au niveau des coûts qui est de l'ordre de plusieurs ordres de grandeur.
Et de passer, donc, de un passer changement au stade industriel,
de 10-20%.
C'est ça.
Voilà, tout à fait.
De passer à un niveau industriel. Il nous reste pas énormément de temps. J'aimerais qu'on dise un mot quand même des questions de stockage et de conditions de stockage. On l'a entendu, un endroit sec et froid. Certaines personnes proposent du stockage dans du vivant. C'est quelque chose qui semble réaliste ou complètement utopique, Jean-Paul Delahaye.
Je suis pas sûr que je sois le mieux pour répondre à cette question. Je suis le meilleur. Concernant le mode de stockage, malheureusement, je pense que le stockage pour ADN nécessitera quand même de disposer de petites unités différentes de molécules ou de groupes de molécules, et qu'il faudra que ces petites unités, ces petites billes dans lesquelles on aura mis de la poudre ou autre chose, soient assez nombreuses quand on voudra atteindre des très grandes quantités d'informations. Et du coup, il y aura un problème un petit peu de gestion mécanique, parce qu'il faudra que ce soit automatisé quand on voudra relire. Mmh. Et je pense que là, il y a toute une problématique qui n'est pas traité aujourd'hui, mais si on veut atteindre des centaines de gigaoctets ou des téraoctets ou plus, il y aura un problème de cette nature-là qui va se poser. Parce qu'on ne pourra pas mélanger toutes les billes en vrac. Il y aura aussi un certain ordre à mettre dans les éléments de base. Mmh.
Christophe Décimo, sur cette idée en deux mots, hein, sur le stockage du vivant, il y a un artiste qui proposait par exemple de planter une forêt qui contiendrait tout Wikipédia avec de l'information ADN encodée dans le génome des arbres.
Alors tout à fait, ouais, c'est une idée qui est souvent proposée. L'autre exemple que j'ai souvent entendu, c'est l'idée, enfin, que les cafards pourraient survivre à une guerre thermonucléaire. Donc pourquoi pas enregistrer l'information dans des cafards, et ça permettrait de garder le patrimoine mondial. Alors le problème, bien sûr, avec ça, c'est que bon, déjà d'une part, il y a quand même beaucoup de, enfin, le cafard est aussi composé de beaucoup d'autres molécules que de l'ADN, donc on perd un peu de densité, mais surtout le vivant est assujetti à la sélection naturelle. Donc tout cet ADN, en fait, va être un réel fardeau pour ces organismes. Et donc, elles vont, la première chose qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont s'en débarrasser, ou bien disons, elles ne vont pas survivre si elles ne s'en débarrassent pas.
Par sélection naturelle,
et
on va.
Par voilà. Sélection naturelle, effectivement. Et donc, l'information ne va pas survivre.
Comment le patrimoine mémoriel de l'humanité terminerait dans des crottes de cafards?
Oui,
c'est intéressant.
Je pense que ce type de problématique est un peu prématuré.
Oui, c'est un peu prématuré. Non. Un dernier mot rapidement, parce que un autre des grands obstacles, c'est l'impossibilité ou la grande difficulté de la réécriture. Une fois que l'information est encodée dans l'ADN, eh ben, c'est pas comme sur une bande magnétique, on efface, on réécrit. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que des outils comme les ciseaux moléculaires, on l'a entendu tout à l'heure, CRISPR-Cas9, peuvent permettre d'avoir et d'obtenir finalement une mémoire ADN qui serait réinscriptible, Christophe Décimo?
Alors effectivement, techniquement, je pense que ça peut être possible. C'est aussi possible d'aller pêcher certains morceaux d'ADN de façon très sélective. D'ailleurs, ça se fait tout le temps de façon très régulière dans le génie génétique ou bien dans les manipulations dans les labos, d'être très spécifique là, puisque l'ADN a cette propriété qu'elle elle s'attache à ce qui est complémentaire. Donc on peut être très sélectif là. Mais effectivement, après c'est une question de coût, c'est une question d'utilité. Je pense que les applications pour le moment c'est plutôt des cas où on n'a pas envie de lire en fait cette information, on veut la garder un petit peu comme avoir l'option de la lire s'il le faut, mais pas forcément de la lire, de l'écrire, de la modifier. Ça c'est quelque chose qui est pas encore vraiment à l'horizon, disons.
Oui, moi je pense que le problème de la réécriture n'est pas un problème immédiat, dans la mesure où on pourra toujours, si on veut changer quelque chose, on peut rajouter de nouvelles molécules qui contiendront cette information nouvelle en indiquant que telle information qui restera présente est invalide. C'est ce qui se passe d'ailleurs sur un disque dur. On n'efface pas, quand on écrit quelque chose à un certain emplacement, on n'efface pas tout ce qu'il y a. On dit simplement ce secteur-là n'a plus d'importance. Je pense que ce type de traitement, si on veut gérer une information évolutive, sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre que d'aller découper des molécules, etc. Ça, je pense que ça sera pas du tout les solutions qui seront adaptées dans un premier temps.
Et puisqu'il est déjà 16h52, pour finir cette émission, comme chaque mercredi, la parole est donc au futur de la recherche. Le futur, c'est aujourd'hui François-Xavier Lyonnais Dumoutier. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous venez présenter vos travaux de thèse en 4 minutes. Vous êtes en 3e année au laboratoire de physique statistique de l'École normale supérieure. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous.
Alors, je vais encore beaucoup vous parler d'ADN.
Chouette.
On fait souvent l'analogie entre le génome et une encyclopédie, mais par plaisir, je vais dire que l'ADN d'un organisme, c'est comme un grand livre de recettes extrêmement épais, présent dans chaque cellule, et au sein duquel elles puisent leur plat préféré pour leur fonctionnement. Pour lire l'ADN, on commence par extraire des cellules. Ils se trouvent ensuite hachés en une multitude de fragments, conséquences, et qu'il faut ensuite assembler pour retrouver le génome complet. Comme si on avait séparé et mélangé toutes les pages du livre et qu'on voulait ensuite les remettre dans l'ordre. Bien que les méthodes de séquençage actuelles permettent des choses incroyables, par exemple de faire du stockage de données sur ADN.
Par exemple, au hasard.
Exactement. Mmh. On leur trouve aussi des défauts. Elles ont tendance à effacer un ensemble d'accents et d'annotations aidant à la lecture du livre de l'ADN. Ces éléments font partie des marqueurs épigénétiques du génome. Concrètement, on parle ici d'éléments chimiques qui viennent s'accrocher le nom de la double hélice d'ADN. Ils apportent du sens et de la nuance au génome en modulant l'expression des gènes et ils en trouvent une nouvelle porte sur la complexité et la subtilité du fonctionnement des cellules. Comprendre mieux ces marqueurs, c'est mieux comprendre certains mécanismes qui déclenchent des maladies génétiques ou par exemple qui permettent d'avoir des nouveaux moyens de détection du cancer. Du coup, des chercheurs, dont ceux de mon laboratoire et de la start-up d'Epixus, ont développé une méthode pour lire ces marqueurs tout en séquençant l'ADN. Elle conserve ces marques en supprimant les étapes de clonage massif de l'ADN, appelées PCR, qui leur est habituellement fatale. Contrairement à la plupart des méthodes qui déchiffrent l'ADN lettre à lettre, notre technique en molécule unique peut être apparentée à une méthode de lecture globale. Mmh. Elle permet de reconnaître des mots-clés dans une page pour petit à petit reconstituer l'ensemble du texte. L'histoire serait parfaite si nous arrivions à lire l'ADN d'une seule traite. Mais comme nous l'avons vu, les pages du livre sont accessibles uniquement dans le désordre. On séquence un fragment qui correspond à une page et il faut être capable de retrouver la place de la page dans le livre de l'ADN. Connaissant la séquence du génome humain, on peut lire uniquement quelques mots ainsi que les marques épigénétiques et chercher à replacer la molécule dans le génome que nous connaissons déjà. C'est plus simple, plus rapide et moins coûteux qu'un séquençage total. Pour cela, il suffit d'écrire les mots connus et les accents sur un papier calque, puis d'essayer de comparer ce calque page par page avec le livre complet pour trouver l'endroit où les mots se superposent. Une fois la bonne page trouvée, on pourra recopier les accents dans le génome existant et les étudier. C'est ici que s'insère mon travail de bioinformaticien. Il s'agit tout d'abord de trouver les quelques mots clés que l'on souhaite chercher. Ces mots, ils doivent permettre le mieux possible de reconnaître une page parmi toutes les autres. Il ne doit être ni trop fréquent, ni trop rare. Et ensuite, mon travail consiste à développer des algorithmes adaptés à notre appareil de séquençage pour lui permettre de retrouver la page qu'on est en train de lire. Le génome humain, faisant 3,2 milliards de bases d'ADN, c'est-à-dire l'équivalent d'un livre de poche de plusieurs millions de pages ou d'une tour de 40 mètres de haut, la recherche à la main, ce ne serait pas réalisable. Les algorithmes que je conçois doivent permettre de le faire de manière presque instantanée, avec le moins d'erreurs possible. Comme beaucoup de doctorants, mon travail s'inscrit dans un projet plus large, et les méthodes que je développe sont génériques. Elles pourront être utilisées dans plusieurs contextes. En l'occurrence, à chaque fois qu'il faudra reconnaître par pince magnétique des molécules d'ADN à partir de quelques mots qu'on aura séquencés. Mon environnement est spécialement interdisciplinaire puisque j'ai l'occasion de côtoyer des physiciens, des biologistes, des bioinformaticiens, alors que moi-même je suis ingénieur en informatique de formation. Ça me permet de travailler sur des problématiques d'algorithmique, oui, mais aussi toucher directement au pendant expérimental et biologique de mes problèmes. Comprendre le génome et toutes ses nuances est une clé de la médecine de demain. Et je suis heureux que par ma contribution de poser avec toute l'équipe une petite brique sur l'édifice de la connaissance.
Merci beaucoup François-Xavier Lyonnais Dumoutier. Une réaction à ces travaux en bioinformatique, Jean-Paul Delahaye ou Christophe Décimeau. Jean-Paul Delahaye.
Non, moi je suis toujours émerveillé par les gens qui sont à cheval sur deux disciplines, en particulier un ingénieur informaticien qui doit apprendre beaucoup de biologie pour réussir à traiter de manière adéquate les problèmes. Je sais que c'est un gros travail, je l'ai fait à une époque.
Christophe Décimeau sur cette thèse en bioinformatique.
Ah, ça a l'air tout à fait intéressant. C'est d'ailleurs beaucoup plus proche en fait du type d'activité que je fais habituellement, donc où on étudie des séquences d'ADN naturelles. Mais effectivement, après, il peut y avoir des connexions inattendues. Et puis c'est la chose merveilleuse avec cet environnement interdisciplinaire où on côtoie des idées un petit peu inattendues et on peut faire des fois des ponts vraiment qui nous amènent un petit peu où on ne s'y attendait pas.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi aux collègues de Lausanne pour le duplex. Merci François-Xavier Lyonnais Dumoutier pour être venu à la recherche montre en main.
Merci
Christophe Décimeau. Merci Jean-Paul Delahaye. Je rappelle qu'on peut vous lire chaque mois votre chronique Logique et Calcul dans le magazine Pour la Science. Également votre dernier livre Mathématiques et Mystères. C'est aux éditions Belin. Encore un mot pour vous dire que vous êtes toujours les bienvenus au salon Livre Paris où nous serons en direct de 16h à 17h vendredi pour une émission consacrée à l'édition en science-fiction. Et puis le lendemain, eh bien, comme vous ne savez pas quoi faire et que vous adorez France Culture et allez voir vos animateurs préférés, vous pouvez passer la journée dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne puisque c'est l'heure du forum L'année vue par l'histoire, un sac table ronde animé par Emmanuel Laurentin et toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire. Voilà, puis je précise que si vous voulez aller à la Sorbonne, il faut vous inscrire sur le site internet franceculture.fr, alors que si vous voulez venir au salon Livre Paris, eh bien il suffit de venir au salon Livre Paris. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfron, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique et Paul Simonacci au droit d'auteur. Et demain pour nos jeudis histoire, nous allons vous raconter une histoire qui à première vue peut avoir l'air transparente et insipide, mais qui est en fait tumultueuse et inachevée. Il s'agit de l'histoire de l'eau, cette molécule étrange qui défie toutes les lois de la chimie. Dans quelques secondes, c'est la beauté dans LSD, troisième épisode, par Perrine Kervran et Élise Andrieux. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.